France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Entre 164 et 310 000 personnes ont manifesté hier pour la fête du travail du 1er mai en France. Militants syndicaux et gilets jaunes dans une bonne ambiance en région, mais plus tendue et confuse à Paris. Dans la capitale, des heurts ont éclaté, obligeant certains syndicalistes à quitter le cortège. Le cabinet Occurrence a compté pour un collectif de médias, dont Radio France. Ce cabinet a compté 40 000 manifestants à Paris. Hier soir, 315 personnes y étaient encore en garde à vue. Le ton par ailleurs est monté après l'irruption à Paris toujours de manifestants à la Pitié-Salpêtrière. Ils ont rapidement été évacués de l'hôpital. Si le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, évoque une attaque de cet hôpital, en revanche, les journalistes vidéos à l'appui expliquent que certains manifestants se sont réfugiés dans l'établissement devant la charge de policiers. Des manifestations également au Venezuela, là bien plus violentes. Selon l'Observatoire vénézuélien des conflits sociaux, une femme est morte hier après avoir reçu une balle lors d'un rassemblement à Caracas. L'opposant Juan Guaido n'a toutefois pas réussi à mobiliser autant qu'il le souhaitait. Il appelle maintenant à une grève générale dans le pays. Le ministre de la Défense au Royaume-Uni a été limogé hier par la première ministre Theresa May. Une éviction liée à son implication dans des fuites concernant une autorisation donnée à Huawei. L'équipementier chinois a en effet été choisi pour participer au Royaume-Uni au réseau 5G. En bref, encore Julian Assange, condamné hier à 50 semaines de prison pour violation de ses conditions de liberté provisoire. En 2012, le fondateur de Wikileaks, qui faisait l'objet de poursuites pour viol classé depuis, le fondateur de Wikileaks s'était réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour éviter de se présenter à la justice britannique. Il est poursuivi également par les États-Unis qui voient en lui une menace après la diffusion de documents classés. Et Julian Assange participera donc ce matin à une première audience sur une possible extradition. Enfin, les États-Unis renforcent aujourd'hui leurs sanctions contre l'Iran et plus précisément contre 8 pays qui pouvaient jusque-là acheter du pétrole à l'Iran. Il s'agissait de la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, mais également l'Italie et la Grèce. Sanctions qui sont à partir d'aujourd'hui remises en place donc.
Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Mon invité en ce jeudi 2 mai est une organisatrice de bals connue du tout Paris, comme on disait jadis. Ça existe donc encore les bals à Paris? Eh ben oui, la bonne vieille tradition populaire se perpétue dans quelques lieux huppés de la capitale. Mais où, sur quels airs, quelle musique danse-t-on aujourd'hui? La baronne de Paname est là pour répondre à nos questions. Le réveil culturel, c'est tous les jours, de bon matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, disponible entre autres sur franceculture.fr. À la coordination, Corinne Amard, Maëlle Ray, notre jeune stagiaire, est toujours avec nous. À la technique ce matin, Antoine Vioza. C'est une émission réalisée par Vincent Abouchard.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Mm-hmm.
se déplace avec ses disques, ses vinyles, ses CD, son ordinateur. Elle se déplace d'un lieu chic à un autre, là où on organise aujourd'hui à Paris des balles. Bonjour Mélina Sadi.
Bonjour, alors, merci pour cette invitation.
Alors racontez-nous d'abord comment vous êtes devenue la baronne de Paname, l'organisatrice des balles les plus courues de la capitale. Moi je ne savais même pas que ça existait encore, cette tradition.
Oh, ça fait 10 ans que nous battons le pavé. En fait, on travaille sur la valorisation de Paris à travers la culture du bal. Donc on balade notre bal des quartiers populaires aux salons huppés, comme vous dites, de la capitale. On balade notre parquet, ça et là. On a travaillé aussi sur le bal. On a accompagné le projet de développement territoriaux dans le 93.
Quand vous dites « on »,
C'est une équipe de passionnés et puis nos partenaires, qui soient institutionnels, beaucoup institutionnels ou privés. Quand on a envie de faire se rencontrer les publics, très clairement, le bal est l'outil de médiation culturelle le plus adapté.
Alors, la coupole à Montparnasse, les Folies Pigalle à Pigalle. Et là, vous nous dites, la bande de Paname, que ça vous arrive d'aller au-delà du périphérique.
Ah oui, oui, nous baladons. Le bal, c'est une longue histoire. On arrive à ce projet par passion. Au début, c'est anecdotique. On propose le bal, mais parce qu'on aime ça. Et puis en face, on rencontre des acteurs de la culture ou de la ville qui se disent mais c'est une bonne idée. Et en fait, le bal nous amène à rencontrer des publics un peu partout.
Quand vous dites bal, ça veut dire quoi? Ça veut dire des dancing, des gens qui dansent sur le son des vieux tubes de Musette, un mélange de tout ça ou...
Alors le bal, nous on raconte le bal dans tout ce qu'il peut proposer, c'est-à-dire que on ne fait jamais le même bal selon le lieu où on est. Si on est au 104 par exemple, on va faire un grand bal populaire où on va se promener des airs des années 30 jusqu'à ceux d'aujourd'hui, en passant par la variété et tout ce qui compose en fait les airs festifs du patrimoine de la chanson française et autres. Quand on est à la coupole, là on investit le lieu dans des soirées immersives hein, où on crée
encore ce mot immersif, ça veut dire quoi une soirée immersive pour un bal organisé à la coupole?
C'est extraordinaire. On propose une thématique qui représente un petit peu l'histoire festive du lieu de son ouverture aux années 80. Le public se costume en fonction de cette thématique. Donc on fait une programmation, donc il y a toujours de la musique live. Le bal, la définition du bal, c'est vraiment de la musique vivante, avant tout. Et à la coupole, nous avons effectivement une programmation de musique vivante, des performances artistiques, et c'est là jusqu'au bout de la nuit. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock 3 times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway, ole.
Voilà, maintenant vous êtes connue en tant que baronne de Paname, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question, Mélina Sadi. Mmh. Quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivée à ce stade où aujourd'hui on vous présente comme la reine des balles à Paris?
Alors, pour la petite histoire, baronne, ça veut dire tenancière en langage familier. Donc, ça se prêtait bien à l'idée de redonner des lettres de noblesse au bal. En fait, comment c'est né ? C'est né d'une passion. Un jour, j'ai frappé à la porte de la ville de Paris en disant « C'est très, très dommage qu'il n'y ait pas de bal sur Paris-Plage. On est au bord de la Seine. Ça serait absolument fabuleux qu'un jour, il y ait vraiment des bals en bordure de Seine pour se réconcilier avec l'idée de danser dehors.
» Et avec la carte postale aussi.
Moi, je suis plus attachée à vraiment l'histoire populaire du savoir danser des années 30. On dansait partout, en fait. Tout était prétexte à danser. On allait faire ses courses. D'un seul coup, on rencontrait un accordéoniste sur le coin d'une rue. On s'arrêtait, on chantait. Il y avait des petits formats, donc on chantait et on dansait. Ça dansait. Il y avait des balles absolument partout. Tous les 10 mètres, il y avait un prétexte de bal, donc on dansait absolument partout.
Toute une époque. Que vous n'avez pas connue.
Que je n'ai pas connue, mais pour moi, passionnée de Paris, c'est ce qui m'a amenée au bal. Ma première passion, c'est Paris. Ce que j'ai pu en voir au cinéma, quand j'étais petite, ça m'a totalement plongée dans un imaginaire extraordinaire. Donc Paris, pour moi, résonne.
Vous êtes parisienne, vous êtes née à Paris, Mélina Sadi?
Non, pas du tout. Charleville-Mézières.
Vous venez de Charleville-Mézières, ouais.
Carolo-Masserienne. Et quand je regardais la télévision, venait d'arriver, quand j'ai regardé les premiers films sur Paris, où on voyait les gens danser, où on voyait des cabarets, etc. Moi, ça me faisait absolument rêver. Je me dis, moi, quand je serai grande, je veux être parisienne. Je veux absolument aller dans tous ces endroits où on danse. Et plus tard, je ne les ai pas retrouvés, ces lieux. On pouvait danser toutes les danses du monde, mais pas le bal populaire. Donc j'ai eu envie de le proposer et je me suis retrouvée donc sur le Paris-Plage du 19e avec une vraie guinguette, un vrai parquet de bal, 300 mètres carrés de parquet de bal. Et l'aventure a commencé comme ça.
Et l'aventure a commencé aussi avec vos disques, vos vinyles, tout ce que vous avez collectionné comme air populaire des années 30 jusqu'à aujourd'hui.
Ça s'est fait naturellement, parce que la mémoire étant ce qu'elle est, j'ai fouillé, je suis une passionnée de brocante et de vide-grenier, de puces, et évidemment, on entasse, et on entasse beaucoup de choses, et notamment des disques.
Alors, DJ et ambianceuse de bal, organisatrice de bal, c'est votre passion, mais est-ce que c'est votre métier
Ah oui, alors mon métier, c'est très précisément tenancière de bal. Voilà. Et l'idée, c'est de rassembler les savoir-faire, ce que j'appelle moi les savoir-faites, qui sont complémentaires pour organiser un bal.
Mais c'est un métier que vous avez inventé de vous-même, je suppose.
C'est juste une pâle copie de ce qui existait avant dans tous les dancing, dans tous les lieux de danse.
Non, mais je n'ai pas parlé. Vous avez été formé à faire ce métier ?
Non. Voilà, c'est une pâle copie de ce qui se passe au cinéma, de ce qu'on voit dans les bals de l'époque. En fait, on allait chez Mimil, on allait chez tous les bals avaient un nom de tenancier et l'idée c'était d'avoir un rendez-vous festif qui soit représenté par un personnage. Donc c'est pas Mélina Sadi qui reçoit le public, c'est la baronne de Paname, et qu'il y ait un
donc
référent.
Donc c'est un personnage.
Un personnage.
Là par exemple, est-ce que vous êtes habillée en baronne de Paname ou c'est vos habits de tous les jours, Mélina Sadi?
De tous les jours. C'est encore mes références du cinéma. J'aime beaucoup les années 40, donc je m'habille essentiellement années 40.
Vous êtes arrivée à Paris à quel âge ?
Pour mon adolescence, donc dans les années 80.
Quel métier vous avez exercé avant de venir ?
J'ai fait plein de métiers et j'ai continué à faire plein de formations pendant tout mon parcours professionnel. Et ensuite, quand j'ai quitté ma dernière profession, j'étais graphiste dans l'édition pendant 10 ans. Dans une maison d'édition généraliste très connue. Et j'ai quitté mon travail pour faire du bal. Ce qui a totalement stupéfait mes collègues de l'époque. Ils m'ont dit, mais prends une année sabbatique et reviens. Je dis, non. C'était sans parachute.
Et vos nuits parisiennes ressemblaient à quoi ?
Je me suis promenée dans tous les lieux très tardivement. J'avais 38 ans. Je me suis promenée un petit peu dans tous les lieux où on dansait. Toutes les danses à deux, Donc la salsa, le tango, le swing, le rock'n'roll, le bebop, enfin le foro. Je me suis un petit peu promenée. C'était un voyage un peu initiatique.
Parce que vous aimez danser ?
J'ai découvert que j'aimais danser, très tardivement. Et ça a été fabuleux. Et aujourd'hui, je le propose.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec des musiques choisies par la baronne de Paname. Qu'est-ce qu'on écoute là, par exemple ?
Alors, c'est une bande d'un film extraordinaire qui a été tourné en 1944. Et j'ai choisi ce morceau du film qui s'appelle Pin Up Girl, qui est un film de motivation des troupes pour aller faire une guerre sur le vieux continent. Cette musique, en fait, c'est une chorégraphie qui est une danse à pâche. Et la danse à pâche, c'est la représentation du bal musette aux États-Unis par les Américains, dans le cinéma américain, dès les années 20.
Et c'est qui la pin-up ?
Et là, c'est Betty Grable.
Qui était réellement la grande pin-up à l'époque où les G.I.s allaient à l'autre bout du monde se battre contre les nazis.
Tout à fait. C'est le film qui a créé le genre pin-up, l'histoire de la pin-up.
Et qu'est-ce qu'elle chante là ?
Alors là, elle chante c'est surtout la chorégraphie qui est très importante puisque donc c'est une danse à pâche avec Hermès Pan qui est le chorégraphe de tous les films de l'époque, les films dansants de l'époque. Et c'est une conversation dansante entre deux Parisiens parce que là toutes les références y sont, c'est bleu, blanc, rouge, le danseur est habillé en apache et elle est un petit peu une représentation d'une fille de saloon un peu, enfin de dancing.
Allez, on l'écoute.
Once too often, I'm getting mighty sick and tired of toting a torch for you. So just be careful, brother. I too can find another. Remember, anything that you do, I can do too. Once too often, I'll get the go-by once too often, and then you'll have to change your tune and sing in a different key. That line that you've been using will cease to be amusing. It's gonna boomerang when you come looking for me. You're a wizard when it comes to crying, a master in the art of alibiing. Go on and do your tall and fancy lying, baby, but you will say you're sorry once too often. You're gonna weep, but I won't soften. You're gonna whimper like a pup the day I catch up with you. Step out, go on and show off. You're gonna give my heart the business once too often.
Once too often, Betty Grable. Alors, vous programmez cette chanson dans vos bals là.
Oui, bien sûr, oui.
En tant que baronne de Paname, vous avez un choix éclectique. C'est pas seulement l'accordéon, c'est pas seulement les vieilles chansons, les vieux tubes français, c'est assez ouvert.
Le bal, l'esprit du bal, en fait, c'est d'abord la mixité. Le musette, par exemple, qu'on présente toujours comme... quand j'avais commencé à faire des bals, on m'avait dit « Oh là là, c'est bleu, blanc, rouge, etc. » Enfin, voilà, avec un côté... On m'a même dit que ça avait un côté pétainiste. Alors que pas du tout. Mais le musette est une musique de brassage. On a des tas d'influences exotiques dans le musette. On a évidemment l'influence de la musique italienne, mais musique espagnole, la musique sud-américaine.
C'est vous
jazz.
Qui faites les choix musicaux, je suppose. Hein.
Oui, c'est le public aussi je n'ai jamais une programmation préétablie. Je passe les musiques en fonction de ce qui se passe dans la salle. Donc c'est très très instinctif.
Mais alors parlez-nous de ce public. Par exemple, vous faites une soirée une fois par mois à la Coupole. Hein. Ça s'appelle Paris Folies.
Les Paris Folies.
Ouais, ouais. D'abord parlons du public.
Alors l'histoire du Paris Folies, c'était un petit peu comme pour la première musique qu'on a passée tout à l'heure. C'est un petit peu c'est un petit peu le bal des Torrescola. On raconte l'histoire du dancing par décennies. Donc on a des thématiques des années 20, 30, 40, 50 jusqu'aux années 80. Et là on propose des thématiques et le public qui vient, c'est un public très hétéroclite. C'est un public, on peut dire, d'esthète. De personnes qui ont envie de s'essayer aux costumes, qui ont envie de s'essayer aussi aux musiques, puisqu'on passe des...
C'est toujours costumé, donc.
C'est en costume, oui. Pour permettre l'immersion, pour permettre le voyage, pour permettre... Et le bal, c'est aussi le costume. On s'habille pour aller au bal. On peut avoir un bal populaire d'aujourd'hui avec le vêtement d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait au 104, mais le bal immersif permet vraiment de raconter le bal. On est entre une démarche festive et une démarche patrimoniale.
Est-ce qu'il y a dans votre équipe des danseurs qui donnent le la ou les gens dansent comme ils veulent, comme la musique les entraîne?
Alors c'est une très bonne question, parce que souvent on me dit mais je peux pas venir à tes bals parce que je ne sais pas danser. Mais non, pas du tout. Le bal permet la rencontre, toutes les formes de rencontre, et la rencontre aussi chorégraphique en fait. On a effectivement un noyau de bons danseurs, mais par mimétisme, à force de gigoter, finalement on mime les danses. Et sans s'en rendre compte,
mais
on apprend.
Mais ce noyau de bons danseurs, font partie de votre équipe ou ce sont des gens que vous invitez?
Ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés qui viennent au bal. Ils font partie effectivement du noyau, du vivier qui vient nourrir. Si on n'a pas de bons danseurs, le bal ne se déclenche pas.
Et c'est quelle tranche d'âge?
Tous les âges. Mais vraiment tous les âges.
Oula, ça c'est bien vieux. La Baronne de Paname, vous programmez aussi des 78 tours. C'est un 78 tours, ce qu'on écoute là?
C'est une vraie galette.
Ah, une galette.
Que l'on passe sur un phono. Et là, c'est vraiment la version originale d'Émile Vacher.
1932, La Mauve Caoutchouc.
Le film d'Anatole Litvak, qui est extraordinaire, qui est moi mon film préféré, qui est plus un film, c'est plus du reportage d'ailleurs que du film seulement de fiction, parce qu'il y a des images extraordinaires sur Paris.
Et ça fait danser des gens?
Ah, absolument, c'est impossible de ne pas danser. C'est-à-dire que très clairement, quand on vient en bal en tant que curieux, très vite on est pris dans le bal.
Et qu'est-ce que vous faites pendant les bals, Mélina Sadi, vous qui êtes connue comme la Baronne de Paname, organisatrice de bal, vous dansez?
Je danse, je fais danser beaucoup, je repère les âmes esselées pour les faire rentrer dans le bal. J'active un peu la rencontre, je fais des propositions évidemment de programmation très variées, j'essaie de faire en sorte que le public ne soit jamais installé dans un genre.
L'amour caoutchouc, qu'on peut faire avec elle, oh c'est fou, elle vous prend et toc et toc, on n'est plus qu'une loque. Ah, c'est pas du tout. Elle vous dit ce que l'amour caoutchouc, c'est un loup et un drôle de petit bout. On la cherche en dessus, mais on la trouve en dessous. L'amour caoutchouc.
la baronne de Paname à la Coupole, une fois par mois pour les soirées Paris Folies et les dimanches après-midi de 15h à 19h. C'est autre chose. C'est un bal à l'ancienne.
C'est le bal à Gabin, ouais. Où on entend effectivement ce genre de version. Et l'idée, c'est là aussi...
Vieille chanson française, donc.
Vieille chanson française. Alors, on va jusque dans les années 60-70. Quelquefois, on pousse un petit peu même vers le disco quand on nous le demande vraiment. Mais sinon, on reste vraiment sur le patrimoine de la chanson française. Et l'idée, très clairement, c'est de faire en sorte que le Musette fasse partie intégrale du paysage culturel parisien. Je dis toujours que Paris sans Musette, ça serait comme Buenos Aires sans tango. Donc je voudrais vraiment que, je sais pas, dans un an, dans deux ans, le Musette fasse vraiment, soit un incontournable. Et que les Parisiens, surtout, soient réconciliés avec le genre Musette.
Musique, spectacle et littérature, ce soir, à la Maison de la Radio. Je sais pas ce que vous faites là, ce soir, mais ce soir et demain, on donne en représentation, ici même, à la Maison de la Radio, Gatsby le Magnifique, avec le rappeur Sofiane Fianso et Rebecca Malder de la Comédie française, la plus jeune sociétaire en ce moment de la Comédie française, Rebecca Malder. C'est bien sûr Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Le fait de mélanger les univers, ça fait partie un peu de votre parcours.
Ah, complètement.
La baronne de Paname.
Ah, complètement, complètement. Nous, sur nos balles, c'est le cas aussi au 104, notamment, on a des artistes de hip-hop qui viennent apprendre la valse et faire des petits happenings avec des danseurs de Musette. Et bon, j'adore ça. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment ouverte à toute la musique. Je suis très, très curieuse et j'aime la rencontre.
Toutes les musiques que vous avez pu écouter aujourd'hui dans le Réveil culturel ont été choisies avec la baronne de Paname, mon invitée, organisatrice de bal. Alors je vous rappelle, ce soir, notre spectacle, l'adaptation du chef-d'œuvre de Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, avec le rappeur Fianso, Sofiane et Rebecca Malder de la Comédie française. C'est ce soir à 20h et demain aussi à la même heure. Vous pouvez venir avec vos enfants, surtout ne vous gênez pas, c'est un spectacle pour tout le monde, c'est à la Maison de la Radio ce soir et demain. Et votre prochaine soirée à la Coupole ?
Samedi 11 mai. Et on fait une soirée spéciale Victoire 1945. Donc ça va être très très festif et avec une immersion très particulière, plein de surprises. Un plateau à peu près de 40 artistes.
Il faut venir habillé, je suppose, en tenue civile ou militaire.
Vous pouvez faire l'un ou l'autre et puis réinventer. On fait pas de la reconstitution historique. Hein. On fait juste une proposition. Donc inventez votre costume de bal, il y a aucun problème.
Et les prix ? Sont à la portée de tout le monde.
Prix démocratique pour tout le monde, 15 euros.
Merci d'être passé ce matin.
Merci.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture et le Centre Pompidou vous invitent au week-end Imagine. Deux jours de marathon radiophonique, de débats, de masterclass et de performances ouverts à tous. Quelle histoire ? C'est le thème de cette 4e édition. Un festival de rencontres et d'échanges qui vous fera voyager dans le temps, de la préhistoire jusqu'à la fin du monde. Avec notamment les historiens Patrick Boucheron, Marilène Patou-Matisse, Pape Ndiaye, les scientifiques Yves Coppens, Étienne Klein, les artistes Gloria Friedman, Sébastien Ossalgado. Le week-end Imagine, les 11 et 12 mai, en public au Centre Pompidou à Paris et sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr, centrepompidou.fr et sur les réseaux sociaux.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un défilé du 1er mai sous les gaz lacrymogènes. Dépassés par les gilets jaunes et les black blocs, les syndicats ne se sont pas fait entendre hier. Le chef de file de la CGT a même été exfiltré pendant un moment. Réponse d'un syndicat de police dans un instant. Et parole d'une manifestante pacifique qui continuera, elle, les rassemblements tous les samedis. Dans cette édition aussi, nous irons en Turquie, l'un des pays visés par le retour de sanctions américaines si des transactions sont effectuées avec l'Iran. Un coût économique pour Ankara, vous l'entendrez. Et puis, Quelle relation entretiennent maintenant la France et l'Italie à propos des œuvres de Léonard de Vinci ? Aujourd'hui, les présidents Macron et Mattarella se retrouveront devant la tombe du génie à Amboise, c'est en Indre-et-Loire. Un 1er mai calme en région, confus et parfois tendu à Paris, où le cabinet Occurrence a comptabilisé pour Radio France hier 40 000 manifestants. Des rassemblements infiltrés dès le départ par des casseurs, des black blocs. Ce qui a notamment contraint le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, à quitter brièvement la tête du cortège. Lui dénonce la charge de la police contre des militants syndicaux clairement identifiés. Philippe Martinez raconte.
Il y a eu des échauffourées devant ce qu'on appelle le carré de tête, si vous voulez, et les forces de l'ordre sont intervenues et ont visé une camionnette de la CGT qui ouvre le cortège, les gaz lacrymogènes et une volonté délibérée d'affrontement.
Est-ce qu'il y a eu une charge ?
En tout cas, ils étaient à 2 mètres de nous et il y a eu des coups de portée sur... des camarades de la CGT très bien identifiés. Les gaz lacrymogènes, c'est pas le parfum du muguet et ils ont vu très, très nettement ce qui s'est passé.
Alors en revanche, pour le syndicat de police Alliance, Philippe Martinez n'a pas compris que les forces de l'ordre essayaient à ce moment-là de disperser les casseurs présents en tête de cortège. Le patron de la CGT était au mauvais endroit, explique le secrétaire national adjoint d'Alliance, Loïc Travers.
Des black box ont formé un attroupement en début de cortège, très proche effectivement de lui et de ses sympathisants, adhérents et d'autres personnes. Ces black blocs, eh bien, sont devenus de plus en plus véhéments. Leur nombre a grossi en quelques minutes. Eh bien, les policiers sont tout simplement intervenus pour pas que ce nombre de black blocs s'intensifie encore plus. Alors, n'en déplaise à Monsieur Martinez, qui a effectivement respiré un petit peu de gaz, mais c'était un mal nécessaire pour que le reste de ses militants, sympathisants, voire adhérents, eh bien, puissent manifester le reste de la journée. Il se trompe complètement de combat et la réaction est parfaitement adaptée et comme on le souhaitait de la police.
Des propos recueillis par Claire Flochel. À Paris, 315 personnes étaient hier soir placées en garde à vue. Ces violences, toutefois, ne doivent pas occulter les dizaines de milliers de manifestants venus pacifiquement hier. C'était le cas de cette trentenaire rencontrée dans les rues parisiennes par Rosalie Lafarge. Elle ne veut pas renoncer. Parole de cette manifestante.
Ouais, c'est Macron qui a pris les commandes. Une fois de plus, c'est le peuple qui est mis à l'amende.
Ouais, j'ai toujours espéré, entre guillemets, qu'il y ait un réveil, un éveil, on va dire, des consciences, que les gens se repolitisent et non pas seulement à travers les grandes émissions de télé, les débats une fois tous les 5 ans, etc. Et puis bah là, c'est ce qu'on est quand même en train de vivre. Malgré toutes les critiques, malgré tout ce qu'on nous dit, etc. sur ce mouvement, il s'est quand même passé beaucoup de choses de belles. Donc voilà, pour moi, c'est un espoir, tout simplement. Et ça l'est encore, même si ça commence à durer un petit peu. Quand on se retrouve dans des événements comme ça, avec plein de gens... motivés, qui veulent juste mieux vivre, etc. Bah oui, là, on a encore de l'espoir.
Ouais. On est là.
Au total, hier en France, entre 164 000 et 310 000 personnes ont manifesté. On ne connaît pas le nombre exact de manifestants au Venezuela, hier encore, mais ils étaient nombreux à Caracas et ailleurs. De nouveaux affrontements ont eu lieu entre les partisans de l'opposant Juan Guaido et l'armée loyale au pouvoir de Nicolas Maduro. Au moins 27 personnes ont été blessées, une personne est décédée selon une ONG sur place. C'est la fin des exemptions américaines pour 8 pays qui pouvaient encore jusque-là acheter du pétrole à l'Iran. Washington lève ses exemptions aujourd'hui. Parmi les pays concernés, il y a la Turquie qui se fournissait il y a encore peu en Iran, à Nandlower.
Lorsque Washington lui a signifié qu'elle ne pourrait plus acheter de pétrole iranien, la Turquie a semblé vouloir tenir tête, jugeant les sanctions inacceptables. En réalité, dès que les États-Unis ont rétabli leur embargo sur l'Iran, et même avant que sa dérogation ne prenne fin, Ankara avait quasiment tari ses achats de pétrole à Téhéran, souligne Elnour Ismail, chercheur au think tank turc Bill Gessam.
À une époque, l'Iran a représenté jusqu'à 50% des importations de pétrole turc. Mais en novembre 2018, par exemple, la Turquie n'a pas acheté de pétrole iranien. Les importations ont un peu repris en janvier, de l'ordre de 10%, mais clairement la politique turque est de chercher des alternatives. À partir d'aujourd'hui, on peut considérer que la Turquie va se conformer aux sanctions américaines et n'importera plus de pétrole iranien.
Dépourvue d'hydrocarbures, la Turquie est contrainte aux importations. Privée de son fournisseur iranien, elle devrait se tourner principalement vers l'Irak et la Russie, même si ces alternatives ont un coût.
C'est surtout vrai pour le pétrole russe, qui n'est pas transporté par oléoduc comme le pétrole irakien, mais par tanker, ce qui augmente les coûts. La Turquie va en souffrir économiquement, cela aura un impact sur son déficit courant et cela va aussi provoquer une augmentation des coûts du pétrole et de ces produits dérivés, notamment pour les industriels.
Un coût supplémentaire dont la Turquie se serait bien passée, alors qu'elle affronte des taux d'inflation records et une récession économique depuis fin 2018.
Une autre sanction américaine s'applique à partir d'aujourd'hui, cette fois à Cuba. Une ancienne loi peut être appliquée. Elle permet aux Américains d'origine cubaine de récupérer des biens spoliés par la révolution de Fidel Castro. Cela ouvre la voie à de nombreux contentieux judiciaires. Armer les professeurs en classe sera bientôt possible en Floride. La mesure a été validée hier par le Parlement de cet État américain. Et c'était en fait l'une des propositions de Donald Trump après la tuerie de Parkland en février 2018, Grégory Phillips.
Au lendemain de la fusillade de Parkland, Donald Trump, mais aussi la NRA, avait fait cette proposition, armer environ 20% des enseignants américains afin qu'ils puissent réagir en cas d'attaque dans leurs établissements. Le président avait repris à son compte l'un des slogans du puissant lobby pro-armes, « Il faut un bon gars armé pour arrêter un méchant équipé d'un fusil ». Le premier syndicat enseignant du pays, qui compte 3 millions d'adhérents, avait fait connaître sa désapprobation. Mettre plus de fusils dans les écoles n'aidera pas à protéger les élèves ni les éducateurs, avait expliqué le syndicat. Dans les faits, 14 États américains sur 50 autorisent aujourd'hui les professeurs volontaires à être armés à l'intérieur de leur classe. C'est déjà le cas au Texas, dans le Missouri ou dans l'Utah. En Floride, les enseignants qui le souhaitent devront suivre une formation de 144 heures ainsi qu'un examen psychiatrique. La plupart des élus démocrates de l'État ont voté contre ce texte, arguant qu'il allait accroître le risque d'accident à l'intérieur des établissements.
Après avoir été condamné à 50 semaines de prison hier pour avoir violé son contrôle judiciaire, Julian Assange sera ce matin encore devant les juges. Audience cette fois sur son éventuelle extradition vers les États-Unis. Et c'est dans ce contexte que notre correspondant Antoine Gignot a rencontré l'un des proches soutiens du fondateur de Wikileaks.
Impliquée dans plusieurs organismes qui défendent les lanceurs d'alerte, Naomi Colvin fait partie des rares Britanniques qui ont des contacts réguliers avec Julian Assange. Contacts interrompus depuis que le fondateur de Wikileaks est enfermé à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Belmarsh.
Là-bas, il n'y a que des gens qui sont enfermés à vie. Des meurtriers, des dealers, des terroristes. Julian est enfermé 19h30 sur 24 et bien qu'il y ait en théorie la possibilité d'aller à la bibliothèque ou d'avoir des soins médicaux, en pratique, c'est très compliqué pour lui d'y avoir accès.
Julian Assange, en revanche, a pu voir ses avocats. La procédure qui commence aujourd'hui s'annonce longue, probablement entre 3 et 5 ans.
Je pense qu'il a une chance d'éviter l'extradition. Mais ce sera difficile, il va probablement perdre en première instance. Ensuite, il y aura la Haute Cour de justice, la Cour suprême et peut-être la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans une certaine mesure, les tribunaux feront en fonction de l'opinion publique.
La première préoccupation des soutiens de Julian Assange reste donc, tout au long de la procédure, d'entretenir la mobilisation populaire.
Antoine Gignot depuis Londres pour France Culture. La France et l'Italie dans la main aujourd'hui pour célébrer Léonard de Vinci, 500 ans après sa mort. La photo sera en tout cas symbolique. Aujourd'hui, jeudi, à Amboise, devant la tombe du génie toscan, seront présents les présidents Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. Et ce, malgré une forte période de turbulence politique, Louise Baudet.
Terminées les insultes par médias interposés. Très mauvais président d'un côté, lèpre populiste de l'autre. Escalade verbale continue depuis l'arrivée au pouvoir à Rome des 5 étoiles et de la Ligue de Matteo Salvini. Et vieux contentieux entre cousins réactivés par la crise migratoire en Méditerranée, les gilets jaunes en France et l'approche du scrutin européen. Début février, le rappel de l'ambassadeur français à Rome a d'un coup calmé les esprits. Et la photo du jour devant la tombe de Léonard à Amboise est censée sceller la réconciliation. Mais en Italie, le président n'est pas le chef de l'exécutif. Et entre Rome et Paris, les désaccords demeurent sur le plan politique et artistique. Querelle ouverte à l'automne par une sous-secrétaire d'État, membre de la Ligue. Pas question, dit-elle, de prêter comme prévu les tableaux de Léonard au Louvre pour sa grande rétrospective d'octobre. Léonard est italien, il est seulement mort en France. Son œuvre doit d'abord être promue en Italie. Instrumentalisation politique d'un contentieux ancien que les ministres de la Culture tentent depuis de solder. Mais les conservateurs italiens vont-ils accepter de se séparer d'œuvres qu'ils jugent intransportables? L'homme de Vitruve quittera-t-il Venise? L'Annonciation, les offices à Florence? La bataille d'experts fait rage, son issue est incertaine.
Léonard de Vinci peut-il réconcilier la France et l'Italie? Florian Delorme posera la question à Marc Lazare ce matin à 7h15 sur France Culture. Pour le moment, il est 6h40. Rapidement, la météo du jour, c'est assez simple. Le temps sera instable, marqué par des averses. Il fait 12 à Rennes ce matin. 13 à Paris, 17 à Marseille. Et c'est maintenant l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Il y a 50 ans, le conquistador Hernán Cortés débarquait au Mexique. Le 25 mars dernier, le président mexicain a adressé une lettre au roi d'Espagne. Il exige des excuses pour les crimes commis lors de la conquête, Jacques.
Oui Clara, et pour l'historien Serge Gruzinski, cette affaire ne concerne pas que l'Espagne. Et le demi-millénaire depuis la conquête du Mexique par les Espagnols devrait être commémoré globalement, car cet événement marque le début de l'occidentalisation du monde. Évoquant dans les pages idées de Libération la polémique suscitée par l'initiative du président López Obrador au sein même de l'inteligencia mexicaine, il estime que ce serait la meilleure façon de remettre sur la table le sens à donner à cette invasion et à ses répercussions, de manière à dépasser les clichés nationalistes forgés au XIXe siècle et les faux-semblants d'une idéalisation du passé indigène qui ne sert qu'à dissimuler la misère des descendants dans des peuples originaires et à escamoter la nature irrémédiablement métisse de la société mexicaine. La violence de la conquête est à rapporter par ailleurs aux cruautés des guerres du XVIe siècle qui ont partout pratiqué le massacre des impies, y compris en France. Quant aux responsables, l'historien rappelle que Charles Quint n'a jamais eu le projet de s'emparer du Mexique et que Cortés n'a été qu'un électron libre, assez heureux pour échapper à la décapitation qu'il menaçait pour avoir désobéi à ses supérieurs, à quoi s'ajoute que les conquérants n'auraient jamais pris Mexico sans l'aide décisive des puissances indigènes, avides d'en finir avec l'hégémonie mexica, les Aztèques. 1519 est aussi la date du départ de l'expédition de Magellan, qui finira en tour du monde, celle aussi d'une autre expédition portugaise vers la Chine, finalement avortée. Tous ces événements sont synchrones et connectés. Leur signification globale est celle d'une occidentalisation du monde, qui au passage sonne le coup d'arrêt de l'expansion de l'islam. La mondialisation devient européenne et abandonne le camp des puissances musulmanes. Elle impliquera donc tous les Européens, jusque dans ses aspects les plus négatifs et mortifères. Y réfléchir collectivement est la seule façon d'en tirer des leçons constructives. La dernière livraison de la revue America s'y emploie pour la partie septentrionale du continent avec un dossier sur l'Amérique indienne qui révèle la capacité de résilience, la vivacité actuelle des cultures de 500 nations pourtant décimées par la conquête de l'Ouest. La littérature en est un bon indicateur avec des auteurs qui, sans céder au discours victimaire, combattent la vision idéalisée de l'histoire dominante et célèbrent les identités désormais minoritaires. Louise Eldridge est l'une d'entre eux. Arborant son origine ojibwé, elle a contribué à renouveler la littérature amérindienne avec des romans comme « Dans le silence du vent » qui évoque aux critiques du New York Times le souffle de Faulkner. Elle parle de la pratique de la langue, des difficultés de la vie dans les réserves où commencent à s'ouvrir des universités indiennes. Parmi les stéréotypes qui l'indignent le plus, celui du lien à la violence et à la sauvagerie. Par exemple, dans les noms des équipes de sport, pour insister sur ses qualités, leurs qualités guerrières, Redskins ou Chiefs. L'armée américaine a des hélicoptères Apache et des missiles Tomahawk. L'opération Ben Laden était baptisée Geronimo. Et à propos des sarcasmes du président à l'encontre de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, d'ascendance amérindienne, surnommée par lui Pocahontas, l'écrivaine dénonce plus généralement, plus largement, une forme d'amnésie quant à l'histoire des Amérindiens. L'huile va à la roue qui grince et les Indiens ont une profonde aversion culturelle pour les Jérémiades, moyennant quoi, jusqu'à une date récente, il était plus facile pour les membres du Congrès et l'ensemble de la population de les ignorer, résume Jim Harrison, qui ajoute qu'il est très difficile pour un peuple d'avoir la moindre perception de l'histoire quand tant d'éléments de cette histoire ont été bannis hors de sa vue. L'écrivain qui nous a quittés en 2016 souligne que plus de 500 tribus ont été réduites à un seul nom, les sauvages, les indiens, les peaux-rouges, ou bien qu'ils habitent bien qu'ils habitent la même région, les Hopis sont aussi différents des Navajos que les Finlandais des Italiens et les Utes des Ojibwés que les Français des Allemands. L'auteur de Dalva et de La route du retour n'a jamais caché sa fascination pour le monde indien. Il lui a rendu hommage dans un texte autobiographique sur l'expérience de l'altérité, de la perte, l'histoire sanglante des États-Unis ou le lien à renouer avec la nature. Il conclut son article par un long inventaire de ce qu'il dit avoir appris des Indiens et notamment qu'on ne peut pas comprendre une autre culture tant qu'on tient à défendre la sienne coûte que coûte. Comme disaient les Sioux, courage, seule la terre est éternelle. Conclusion, que nous ayons trahi les peuples autochtones devrait nous pousser de l'avant tant pour eux que pour la terre que nous partageons. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, la situation au Venezuela.
Oui, c'est ça, avec un regain de tension dans les rues de Caracas depuis mardi, après le lancement de la phase finale de la lutte contre le régime du président Maduro. Ce sont les mots de l'autre président qu'on dit autoproclamé en janvier, Juan Guaido, chacun soutenu par une sorte de camp international. Maduro est apparu à la télévision mardi soir, il accuse Guaido de traîtrise. Guaido accuse Maduro d'usurpation. Alors la guerre des légitimités aura-t-elle une fin? On en parle avec vous, François-Xavier Freland. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes journaliste indépendant, récemment auteur de ce documentaire sur les opposants vénézuéliens, les résistants, le combat des exilés vénézuéliens sur Public Sénat. Pour les manifestations de ces deux derniers jours, ce sont déjà plus de 100 blessés et 2 morts. C'est l'opération Liberté, selon les termes de Juan Guaido, qui affirme qu'il a réussi à retourner une partie de l'armée. Il voulait que ce soit, je le cite, la plus grande marche de l'histoire du Venezuela. De ce que vous avez vu, de ce que vous savez, c'est une réalité ou de la rhétorique?
Écoutez, pour l'instant, c'est difficile de dire, il est encore trop tôt, mais la première impression, c'est que ça prend pas vraiment, en fait. C'est un coup médiatique qui a été lancé avant-hier par donc le président autoproclamé par intérim, avec en plus l'appui de Leopoldo López qui a été libéré, vous savez, cet opposant qui avait fait 3 ans de prison et qui était assigné à résidence et qui a été libéré donc par des troupes ralliées, militaires ralliées à Guaido. Donc c'est un homme politique important. Ils ont tenté ce coup de force donc cette semaine. Pour l'instant, on n'en voit pas vraiment les résultats. La population suit à moitié. On n'a pas vu une déferlante dans les rues de Caracas. On a vu quelques militaires rejoindre donc le camp de Guaido, mais on ne peut pas dire que ce soit la majeure partie de l'armée qui s'y soit ralliée. Donc pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Il y a eu des affrontements dans les rues de Caracas hier très violents. Mais c'est pas encore tout à fait convaincant du côté de Guaido.
Oui, alors on va prendre les soutiens dans l'ordre. La Guaido a appelé à prendre le relais d'une grève qui se disait perlée, mais désormais il veut que ce soit une grève générale. Vous avez parlé des militaires. Effectivement, il y a des manifestations qui se sont concentrées autour d'une base aérienne militaire qui s'appelle Carlota, à l'est de Caracas. Guaido affirme qu'il a retourné ces militaires, ce qu'on peut en savoir, c'est quoi? C'est la douzaine de militaires qu'on a vus auprès de lui, ou c'est plus que ça, puisqu'il y avait quand même 750 militaires qui avaient fait défection en mars dernier?
Je pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, pour être clair, la majeure partie des Vénézuéliens sont derrière Guaido. Maduro est extrêmement impopulaire. C'est pas une impression, il y avait eu des sondages il y a quelque temps, et il y a surtout eu des déferlantes, des mobilisations très importantes dans les rues de Caracas. Du côté de l'armée, c'est la même chose, sauf que vous avez un cartel de généraux extrêmement bien payés, qui sont totalement piégés par le système Maduro, qui ne veulent pas perdre leur privilèges, et qui auraient même pas intérêt, puisque si jamais Guaido arrivait au pouvoir, ils pourraient même eux risquer la prison. Et puis derrière, vous avez une armée de jeunes soldats, eh bien, qui suit un petit peu le vent, sachant que on se dirigera sans doute du côté du plus fort. Et pour l'instant, l'homme fort reste Maduro, sachant qu'il a l'armée avec lui, et qu'il a surtout un soutien, on va sans doute en reparler, mais de la Russie, qui n'est pas un soutien minime, qui est un soutien en plus militaire. On l'a vu, des vols, des avions arrivés de Moscou avec du matériel militaire et des soldats. Donc, vous voyez, l'équilibre est quand même, pour l'instant, à l'avantage de Maduro, qui tient le pays que par la force. Il ne le tient plus, je dirais, par une idéologie. Il ne le tient que parce qu'il détient ce levier-là.
Alors, on va dire un mot encore de cette force. Justement, il y avait le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, qui est apparu aux côtés du président Maduro à la télévision, en réaffirmant qu'il soutenait les autorités légitimes, disait-il mardi soir. Il y a eu des affirmations de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale américain, qui affirmait qu'un groupe de 3 responsables sécuritaires, dont Padrino López, était prêt à se retourner. Quel crédit est-ce qu'on peut accorder à ces allégations?
C'est peut-être vrai, ça reste des allégations. Ce qui est sûr, c'est que aussi du côté américain, on attend de voir. Il faut quand même noter une chose importante. La Carlota, c'est pas seulement une base militaire. C'est un aéroport central dans Caracas. Ça veut dire que c'est une piste où peuvent atterrir des avions avec du transport de troupes et de matériel. Donc, à partir du moment où vous détenez cette base militaire, et c'est pas encore le cas, Guaido était à côté de la base, mais il ne contrôle pas encore cette base. À partir du moment où vous contrôlez cette base, vous pouvez tout imaginer, et peut-être même l'arrivée de forces extérieures par l'aéroport. Donc on sent que actuellement il y a une volonté d'en découdre de la part de Guaido, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, puisque de toutes les manières, jusque-là, sa stratégie est arrivée à une certaine impasse, et que il y a une volonté aussi de médiatiser on va dire cette opération Liberté, comme il l'a appelée, au niveau international, pour obtenir des soutiens, puisque l'opposition au niveau du pays n'y arrive plus. D'ailleurs, très facilement et très logiquement, parce que les 3/4 des opposants sont ou en exil, ou assigné à résidence, qui était le cas de M. Leopoldo López. Et puis, il faut quand même rappeler que le grand des troupes, des gens qui descendaient dans les rues dans les années, même depuis l'époque de Chavez, dans les années 2004, 2010, 2015, 2017, eh bien, 5 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. C'est énorme. Ça veut dire que peut-être que les plus radicaux sont partis. Et aujourd'hui, vous avez une grande masse silencieuse, des gens qui voudraient que ça change, mais qui n'osent pas, qui ont peut-être peur.
Et donc pas assez de soutien politique, malgré la sortie, la libération là de Leopoldo López, effectivement l'ancien secrétaire général du Parti Voluntad Popular, dont fait partie Guaido, ou alors le soutien très appuyé d'une autre figure de la vie politique vénézuélienne, Maria Corina Machado, qui s'exprime beaucoup dans la presse en ce moment en soutien à Guaido aussi. Il y a quand même quelques figures encore au Venezuela.
Oui, alors c'est peut-être la dernière qui peut encore parler, parce que je sais pas si vous vous souvenez de Capriles qui s'était présenté en 2012 contre Chavez, qui avait fait un très bon score d'ailleurs. Chavez a fait 54% contre 46% à Capriles. C'était déjà la preuve que le régime n'était plus aussi populaire qu'avant. Et puis, il avait quasiment battu Maduro quelques mois après, en 2013, lors d'un scrutin qui avait été frauduleux selon l'opposition, où Maduro avait été élu une première fois. Donc c'est vrai que Machado, c'est une femme qui importante, qui avait failli être candidate contre Chavez, mais qui représente quand même beaucoup de Vénézuéliens, un petit peu la candidate de Washington. Donc elle est un peu discréditée, elle est très libérale, elle est très proche des États-Unis. Après, c'est une femme très courageuse qui a subi des coups de la part de députés vénézuéliens lorsqu'elle était encore à l'Assemblée. C'est vraiment une très belle figure de l'opposition. Mais c'est pas elle qui va déterminer l'évolution du pays.
Et alors, plus largement, si on remonte dans l'histoire, en quoi cette stratégie de manifestation, qu'on pourrait dire un peu permanente, avec des sortes d'ultimatums qui ont été répétés plusieurs fois depuis cette proclamation ou prise de pouvoir le 23 janvier de Guaido, en quoi cette stratégie, est-ce qu'elle est différente de ce qu'on appelait la Salida à l'époque, là, ces grandes manifestations entre 2014 et 2017, qui, comme on le sait, n'ont pas réussi à renverser les régimes? Il y a quand même une similarité, selon vous?
Alors, il y a peut-être une différence aujourd'hui, et on l'a vu à travers certaines déclarations de chefs d'État latino-américains, notamment du côté du Chili, Tout est possible aujourd'hui. Certains même chefs d'État de pays voisins envisagent une intervention militaire, ce qui n'était quand même pas le cas il y a 2-3 ans, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Donc on a vraiment l'impression d'une opération de la dernière chance de la part de Guaido, qui risque énorme dans cette histoire, parce que évidemment Guaido, s'il est arrêté, non seulement il risque la prison à vie, mais il risque peut-être la peine de mort. C'est le cas aussi évidemment de Leopoldo López, qui a demandé d'ailleurs refuge du côté de l'ambassade du Chili à Caracas. Ce sont des hommes finalement extrêmement courageux. On peut se moquer d'eux, comme c'est le cas parfois en France, on peut le lire comme des fanfarons. Ce sont quand même des gens d'une extrême volonté et courage. Donc et il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien ces gens-là donnent l'impression de vouloir tout fomenter, tout essayer, pour essayer au moins de faire trembler le régime, parce que le renverser, ça va pas être simple, mais au moins le faire trembler pour peut-être la communauté internationale organise une vraie médiation, une vraie pression sur le régime, afin qu'il y ait une sortie de crise, peut-être diplomatique, en attendant un risque d'intervention militaire.
C'est ça, avec toujours des menaces d'intervention militaire, suggestions de la part des États-Unis. Dernière chose, alors, comment ça se fait, puisque vous l'avez évoqué aussi, que le régime n'ait pas souhaité arrêter Juan Guaido, hein, qu'il accuse d'être un traître, alors que Maduro, hier encore, disait qu'il n'aura aucune hésitation à mettre derrière les barreaux les responsables de ce coup d'État criminel, disait-il. Il aurait pu avoir l'occasion. S'il ne le fait pas, pourquoi ?
Alors, c'est toute la question. On sent qu'il y a une stratégie aussi assez discrète derrière. On peut se poser la question, d'ailleurs, s'il n'y a pas une main étrangère derrière les choix de Maduro. Très clairement, la Russie, qui est très présente, et je l'ai dit au tout début de cette émission. Les Cubains aussi, qui sont là un petit peu à organiser cette stratégie de Maduro. Maduro a peur. Il s'est réfugié dans son palais. On ne sait pas très bien où il est à l'heure actuelle. Il est clair qu'aujourd'hui, au Venezuela, du côté Maduro, on évite quand même de franchir le pas de trop, parce qu'on craint très clairement une intervention militaire américaine qui viendrait là totalement anéantir les derniers espoirs d'un chavisme au Venezuela. Donc on est dans une espèce de provocation de part et d'autre du côté de Monsieur Guaido, qui régulièrement organise quand même des effets médiatiques, et puis du côté de Maduro, on attend de voir peut-être le bon moment pour arrêter ce personnage qui, pour le moment, donne du fil à retordre au régime chaviste.
Bon, écoutez, ce sera à suivre avec la nouvelle journée qui se prépare à Caracas. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications aujourd'hui, François-Xavier Frelan. Puis, bien sûr, j'invite le public à revoir votre documentaire sur les résistants, le combat des exilés vénézuéliens, diffusé récemment sur la chaîne Public Sénat. Merci, bonne journée.